La musique inouïe.
Carabanana maximum.
Chagueuse.
Je me fous du
La maladie fait partie intégrante de nos vies. Quand tu ne diras plus ta vue.
Vive mon pantalon.
Vive le soleil.
Vive les oreilles.
Vive.
Thank you.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne et partout ailleurs dans le monde, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, émission consacrée aux musiques singulières et autres formes de création curieuse. Alors, beaucoup d'invités dans notre studio aujourd'hui. Nous recevons Théo Jarier.
Bonjour.
Pauline Burgoin.
Bonjour.
François Gorin.
Bonjour.
Et Raphaël Rinaudot.
Bonjour.
Et nous allons parler de Christen Noguès, la harpiste bretonne Christen Noguès. Nous venons d'écouter Christen Noguès et John Schurman, l'extrait du disque Dire Yahou, qui sort aujourd'hui, Théo, c'est ça ?
Ouais, tout à fait.
Et la plage 1 s'intitulait Kerzaden. Alors vous excuserez mon piètre breton. Je ne pratique pas la langue bretonne. Alors, on va refaire un tour de table. Pouvez-vous vous présenter, dire ce que vous faites, et afin que les auditeurs et auditrices identifient vos noms
Alors, je suis Théo Jarier. Je suis déjà venu dans cette émission. Une ou deux fois, déjà.
Oui, je sais pas. Oui.
Je ne sais plus. Et je représente Souffle Continu, qui est disquaire libraire parisien.
Ouais.
Et aussi label. Voilà. Éditeur. Rééditeur.
Rééditeur. C'est vrai. Ouais. Pauline.
Oui, donc Pauline Burguin, je suis autrice, réalisatrice et productrice de films, avec la particularité de travailler depuis la région Bretagne.
Ah, super. François.
François Gorin, donc j'ai été journaliste pendant pas loin de 45 ans, je ne le suis plus depuis un an après avoir quitté le Télérama, magazine auquel j'ai collaboré pendant une trentaine d'années. Donc j'ai commencé comme critique rock et folk, j'ai écrit dans le Matin de Paris et puis principalement ensuite dans Télérama comme critique de cinéma d'abord, puis sur la musique, qui est restée ma première passion. J'ai écrit une dizaine de livres et réalisé, co-réalisé deux documentaires, dont Alexis, le Chant des Pierres, une aventure monastique, ça date d'il y a 10 ans, et l'Harpe de Christen avec Pauline ici présente.
Très bien. Raphaël.
Bonjour, et bien moi je m'appelle Raphaël et je joue de la harpe. La particularité, enfin la singularité que j'ai travaillé, c'est de développer un maximum la harpe électrique. Et j'ai essayé d'explorer plein d'univers différents avec le système d'amplification que j'avais. Et je joue dans un groupe qui s'appelle Noot, dont on a déjà parlé dans une émission ici. Et un autre qui s'appelle Spin and Spells, que j'ai créé il y a un an à Plage Magnétique, SMAC à Brest, où j'étais artiste associée.
On va reparler de tout ça, mais effectivement, tu es venu il n'y a pas très longtemps, Raphaël.
Oui, c'est ça, il y a 6 mois.
Alors peut-être, puisque on parle de la sortie d'un disque aujourd'hui, on va commencer par Théo. Peut-être, on va parler de façon générale, le Souffle Continu existe depuis combien de temps maintenant ?
Depuis 17 ans.
17 ans.
Ouais. Le temps passe.
Déjà, alors, mais toi-même, tu es disquaire depuis assez longtemps. Je me souviens de toi à Jussieu Musique.
Ouais, exactement. Ça va faire 25 ans que je suis disquaire, peut-être.
Ah oui, je me souviens de ça.
Moins de 30 ans.
Je venais t'enquiquiner à Jussieu Musique.
Ouais.
Alors,
on aime ça.
Ah bah oui, j'imagine. Comment vous est venue l'idée d'une boutique spécialisée dans les musiques hors normes tout de même, hein, on trouve pas n'importe quel disque.
On était déjà passionnés de ces musiques-là à l'époque de Jussieu, donc on avait une clientèle qui s'intéressait à ça. Donc quand Jussieu a fermé, on s'est dit de toute façon c'est pas faire autre chose, et donc il fallait réinjecter du souffle. Donc, Souffle Continu, ça vient de là.
D'accord.
C'était remettre de l'énergie, parce que c'était un moment où le disque était vraiment en souffrance. D'ailleurs, il l'est toujours depuis, mais, ouais. mais c'était un moment où les disquaires avaient, la plupart avaient fermé. Il y avait quelques magasins d'occasion, mais les disquaires qui proposaient du neuf n'existaient plus. Donc on a lancé un peu un truc à Paris avec quelques autres. Voilà, redynamiser donc la technique du souffle continu respiratoire de saxophone et réinjecter de l'énergie pour ça. Alors les musiques qu'on défendait, on les défendait déjà à Jussieu, c'est des musiques qui nous passionnent. Voilà, après vive en proposant que des musiques, on va dire, de traverse, expérimentales, des musiques un peu, on va dire, inespérées, j'aime bien ce terme.
Ouais, c'est pas mal, ouais.
Et c'est assez difficile à bosser, donc on est obligé d'avoir quand même des jalons, des repères, des musiciens importants, un peu plus mainstream, et après, on peut s'éloigner et trouver d'autres expérimentateurs autour.
Ouais. Alors, j'imagine, c'était pas gagné d'avance d'ailleurs, il n'y a plus trop.
C'est jamais gagné.
Il n'y a plus trop de disquaires maintenant.
Ah, bah si, à Paris, oui.
Il y en a encore.
Aujourd'hui, il y a beaucoup de disquaires. Ouais.
Ah, d'accord. Ouais, ouais, ouais. Alors, oui, justement, tu parlais des formats. Il me semble qu'il y a eu plusieurs renversements.
Bah, oui.
Et actuellement, tout à fait. On est plutôt sur le vinyle, j'ai l'impression.
Alors, on est sur le vinyle depuis une bonne dizaine d'années.
Ouais.
Mais là, les prix du vinyle augmentent tellement que le vinyle est pour la première fois en train de stagner. Je crois que c'est la première année où il est en baisse, notamment aux États-Unis. Mmh. Donc, le CD ne revient pas vraiment. Il y a quelques effets par moment où le CD revient un peu, mais voilà.
J'entends parler de cassette, moi, récemment.
Il y a de la cassette aussi. Il y a des tas de supports. C'est assez difficile, d'ailleurs, de travailler ces supports, parce que c'est de plus en plus compliqué. D'ailleurs, François a écrit un livre qui parle aussi des histoires de supports.
Ah oui, non, tout récemment. C'est le tout dernier, paru la semaine dernière. Ça s'appelle Mémoire d'un discoman. Enfin,
voilà.
J'en profite pour
oui,
le...
Oui, oui.
En fait, ça raconte mon itinéraire parmi les supports de musique, c'est-à-dire les objets. C'est-à-dire là, je ne parle pas de musique, ou incidemment, très très peu, mais je ne parle que des choses par lesquelles on a entendu écouter la musique depuis, depuis mon enfance, mon premier 45 tours, jusqu'au streaming aujourd'hui, en passant par tous les objets dont on vient de parler avec Théo.
Il y a une sacrée évolution.
En particulier la cassette qui de manière un peu inattendue, revient aussi. Alors ça reste très marginal. Mais c'est vrai que comme le CD, comme tu disais, est en chute libre, maintenant on a l'impression que tous les supports ont leur chance. Oui,
complètement.
Il
y
a une boutique de cassettes qui vient de s'ouvrir.
Qui vient de s'ouvrir à Paris.
Oui, il y a même eu, déjà il y a quelques années, des labels qui ne sortaient que des cassettes.
Que des cassettes.
Cassettes only. Ça existe.
Ouais. Après, c'est sur des types de musique, sur des esthétiques, c'est assez étrange. Ouais. Il y a une dizaine d'années, sur tout ce qui était free folk, un peu drone et tout ça, il y avait des labels de cassettes.
Oui.
Ils faisaient que de la cassette.
C'est vrai.
Et puis, ça a un peu disparu. Ces labels ont un peu disparu parce que ça, la mode a un peu bougé.
Ouais.
Mais ça revient avec des labels qui sont plutôt noise aujourd'hui, qui font plutôt de...
Oui.
Donc, le support cassette est quand même identifié sur des... Pas vraiment des chapelles, mais sur des esthétiques, on peut dire.
Ah, d'accord. Ouais. Un petit mot de ton associé qui doit être à la boutique, j'imagine.
Ouais, tout à fait. Qui tient le Bouclard.
Qui tient le Bouclard, ouais. C'est Bernard.
Oui, Bernard Duqueron.
Ouais. Bon, on le salue s'il nous écoute à la boutique. Est-ce que l'idée de créer un label était présente dès l'ouverture du Souffle Continu?
Plus ou moins. Plus ou moins. Après, on nous a mis le pied à l'étrier. C'est-à-dire que quand on a ouvert, on avait cette idée de éventuellement rééditer. Et puis le jour de l'ouverture, il y avait Gérard Terrones qui était là, et puis il y avait Richard Pinas qui était là, et puis il y avait plein de musiciens, et certains nous ont dit faut rééditer des disques, quoi. Donc Pinas, on avait fait un événement avec Richard Pinas, il avait des 45 tours qui vendaient très cher à l'époque, et on lui a dit mais pourquoi les vendre très cher? Parce que c'est des collecteurs, j'en ai très peu de copies. Et on lui a dit mais si on les réédite, les gens peuvent les écouter à moindre prix. Et ça a commencé comme ça, on a fait une série de 45 tours de Eldon, du groupe de Richard Pinas des années 70. Et puis après, on avait Gérard Terrones qui avait une émission d'ailleurs sur Radio Libertaire, et qui nous disait mais les gars, Futura, c'est le futur, et je fais du CD, et je veux pas du tout refaire du vinyle. Parce qu'au début, on voulait que ce soit lui qui réédite ses vinyles, et il voulait absolument pas, et il nous disait, mais vous êtes chiant, vous nous emmerdez, à un moment donné, faites-le, quoi. Prenez le risque. Et après, il a un peu regretté, parce qu'il a dit, le risque est très élevé, comment je peux vous aider? On lui a dit, non, nous, on le tente.
Ah oui.
Et ça a marché, il était très surpris d'ailleurs. Ouais. Et on a fait des rééditions des disques Futura de son catalogue, les premières références avec des vinyles couleurs et tout. Il trouvait ça très étrange.
Ouais. Alors, est-ce qu'il y a un domaine de création dans lequel vous vous êtes spécialisé ?
Oui, bon, on va dire qu'on archive l'underground français des années 70-80.
Ouais, c'est ça. Hein, ouais. C'est ce qui apparaît. Peux-tu nous citer quelques exemples de titres que vous avez sortis ?
Oh, bah, il y a beaucoup de choses. Après, on est entre le jazz, le progressif, le psyché. Ouais. C'est les musiques de traverse de cette époque, quoi, un peu marginalisées. Donc tous les groupes que Théronès avait produits au début, Triode, puis les groupes qui étaient autour, et puis autour de Magma, Eldon, qui était quand même lié à Magma à l'époque, et puis des choses plus jazz, Barney Whelan, on a réédité Moshi. Donc on était vraiment entre le jazz, le psyché, un peu la musique du monde. On a réédité des disques de Jean-François Pauvrose, de Jacques Bérocal et tout. Donc on va aussi jusqu'aux années 80. Voilà.
Ouais. François Tusque plus récemment.
Ouais.
Au demeurant, on parle de vous tous les 6 mois dans l'émission qu'on fait autour des sorties discographiques. La prochaine aura lieu dans 15 jours. Ouais. Donc il sera question à nouveau du souffle continu. Ouais. Mais alors, vous faites des ressorties d'albums, on l'a bien compris, mais faites-vous également des inédits ?
Alors on fait ce qu'on appelle de l'archivage. Ouais. Ouais. Ce qui est le cas là avec le disque de Christène. Ben voilà. C'est-à-dire que l'archivage, c'est des disques qui ne sont pas sortis à l'époque, mais qui ont été enregistrés à un moment, donc qui sont restés dans des tiroirs, on va dire.
Ouais.
Donc c'est pas vraiment des nouveautés.
C'est pas des nouveautés.
Mais non, c'est des disques qui ont pas eu de vie, quoi.
Ah ouais, ça n'a pas existé. Alors peut-être on va écouter un deuxième extrait de Diriaou. Est-ce que tu peux nous le présenter, nous parler du disque?
Ben écoute, oui, alors le disque, c'est un coup de fil de François Gorin déjà, qui après le film me dit que pendant le tournage, il a eu John Surman qui disposait de cette maquette, de cette bande, on va dire, et on a commencé du coup à travailler dessus. Et l'histoire nous a mené jusqu'à aujourd'hui, à la sortie du disque.
Alors, sachant que Pauline et moi, on avait contacté John Surman dans l'idée que peut-être il pourrait intervenir dans notre documentaire, c'était trop compliqué. Il habite loin, il tourne encore, hein, même à 80 ans, il est très actif, il a sorti un album l'année dernière. Donc j'ai simplement correspondu avec lui par mail, mais il a été très réceptif et très gentil. Ouais. Et puis au détour donc, de notre échange de mail, il m'a parlé de ces bandes dont il disposait, inédites, et alors évidemment ça m'a tout de suite intéressé. Mmh. Et puis il a eu la gentillesse de nous faire parvenir les fichiers correspondants et de nous donner l'autorisation d'en utiliser, ce qu'on a fait avec Pauline, des petits morceaux comme ça dans le film. Et tout de suite, moi, je me suis dit, en écoutant cette musique, enfin, donc des captations de concerts qu'ils avaient donné dans les années 90, j'ai tout de suite pensé à Théo, qui avait réédité déjà le premier album de Christène Nogués. Et de fait, voilà, ça t'a intéressé. Et tant mieux. C'était, pour moi, il fallait que ça sorte. Enfin, quand j'ai entendu ça, je me dis, mais c'est un album génial, quoi. Il suffit d'eux. De l'éditer, quoi.
Il y a vraiment des interactions entre vous.
John est entré en contact avec Théo, ils ont échangé.
Nous, on connaissait déjà l'existence d'enregistrement de Christène et de John, mais pas en duo, parce qu'il y avait déjà un ou deux titres qui étaient sortis sur une compilation qui avait été faite par Bertrand Dupont sur le label Inaccord. Donc on savait que ça existait, on aimait ça beaucoup, mais il n'y avait pas de suite, il y avait peu de renseignements, et on s'est dit, il y a des choses dans la nature, il faudrait retomber dessus, mais comment les retrouver, qui contacter, c'était un peu nébuleux. Ouais. Mais on savait qu'il y avait eu une rencontre, et John, quand on l'a eu, pour lui c'était quelque chose de vraiment important, ça avait l'air d'être très très important pour lui.
Oui, alors moi je lui ai même posé la question, est-ce qu'à un moment il n'y a pas eu envisagé un album commun Nogués-Surman? Et il m'a dit, il m'a répondu comme ça de manière un peu fataliste, oui, mais à l'époque, il y a eu beaucoup de projets qui se sont pas tous faits. Ouais. Ce qu'on sait, nous, c'est qu'il y a eu une approche entre Christène Nogués et le label ECM, dirigé par Manfred Eicher, et qui a même eu un rendez-vous. Alors ça, on n'a que la version de Bertrand Dupont sur cette histoire, qui était le manager personnel de Christène, et qui s'en est voulu, parce que le rendez-vous en question, Christène a décidé d'y aller seule, et lui, après coup, ça en est un peu mordu les doigts, il s'est dit j'aurais dû l'accompagner, parce que comme par hasard, alors ça c'est peut-être un élément de la personnalité de Christène dont on parlera par la suite, mais visiblement elle a de son plein gré saboté le rendez-vous. On ne sait pas dans quelles circonstances, hein. Moi je n'ai eu que le récit de Bertrand, mais en tout cas il semblerait qu'il y avait un intérêt réel de Manfred Eicher pour la musique de Christène, et qu'on aurait pu très bien imaginer un album en duo avec Sormann ou avec d'autres.
Je pense que ça aurait pu se faire même à l'époque. Le problème, c'est que Manfred Eicher, lui, il voulait pas de live, donc il aurait voulu les enregistrer de nouveau, donc les coincer, les coincer, les mettre en studio à Munich et les faire bosser, etc.
C'est peut-être la raison pour laquelle elle a reculé sur le projet.
Puis John, à l'époque, il avait il en a moins aujourd'hui, mais à l'époque il avait tellement de projets qu'il sortait beaucoup de disques. Il était par Mons et par Vaux, et ça s'est pas fait, quoi. C'est dommage que ça soit pas fait à l'époque, mais
ça se fait aujourd'hui. Je propose qu'on écoute un deuxième extrait de Christène Nogues, John Schumann, extrait du disque Dir Yahou. Alors c'est un extrait du morceau Baz Valan.
Woo!
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Et aujourd'hui, nous parlons de Christen, de l'harpiste Christen Nogues. Nous venons d'écouter un extrait de l'album Dir Yahou de Christen Nogues et John Schurman. Raphaël, tu es venu nous voir le 7 mars dernier.
Tout à fait.
L'émission est en ligne sur le site de Radio Libertaire. Alors, pour les rares auditeurs, auditrices qui n'auraient pas écouté, ce qui est peut-être imaginable. Est-ce que tu peux nous... Alors, on va pas en faire tout ton parcours, mais peut-être signaler que quand même tu es harpiste, bien sûr, et que tu as un parcours plutôt classique, si je me souviens bien. Mais tu n'évolues plus dans le classique. Quelles sont les musiques que tu joues désormais?
Si seulement je le savais moi-même. Écoute, oui, j'ai eu un parcours classique, mais pas que. Et en fait, j'ai toujours eu aussi en parallèle une vie underground avec ma harpe. Et un jour, j'ai décidé que c'était fini. Je ne ferais plus que travailler ce que j'aimais, c'est-à-dire les styles de musique que j'ai développé dans un milieu plutôt underground. Et voilà. Après, je joue un style de musique que je n'ai pas étudié.
Très bien.
Je pense qu'il y aurait beaucoup à dire.
Oui, alors, par contre, en venant dans le métro, là, tu m'as parlé de la Bretagne. Est-ce que tu as... aujourd'hui, l'émission est consacrée à la harpe...
Oui, et à Christen.
À une Christen.
Tout à fait.
Qui a commencé, on en reparlera à propos du film, mais qui commence dans les musiques bretonnes, je ne sais pas si on peut dire traditionnelles. Oui, c'est ça. Est-ce que toi-même, tu as été confronté à ces musiques-là?
Alors, tout à fait, parce que j'ai joué dans un projet justement qui est produit et qui était construit par l'ancien manager de Christen Nogues, Bertrand Dupont. Et ça s'appelle la Kresbrez Academy. Et c'est un système de compagnonnage qui, un peu comme Jazz Migration l'est, tu vois, pour le jazz, la Kresbrez Academy formait des musiciens bretons ou pas. À faire de la musique modale. Avec la vision artistique de la musique modale d'Éric Marchand. Et ensuite, le projet tournait. Et puis, on était accompagnés dans des formations pour développer nos projets, grandir. Donc, j'ai eu cette connexion-là. Et donc, oui, j'ai joué de la musique bretonne, mais dans un groupe où on lui cassait la figure. Oui, si, quand même pas mal. Ouais.
Mais alors, si je me souviens bien, tu n'étais pas du tout en Bretagne
Moi, je viens du sud de la France.
Ah oui, c'est ça. Oui. Alors, peut-être c'est l'occasion de signaler que ce soir même, nous aurons, à l'occasion de la sortie du disque Dir Yahou chez le label Le Souffle Continue, nous aurons un concert de Raphaël Rinaudeau, puis la projection du film La Harpe de Christen, dont on va parler tout de suite. Mais tu vas faire un concert solo, Raphaël. De quoi va-t-il s'agir ? Harpa, tu as...
Ah, c'est ce que je joue en ce moment.
Ouais, c'est ce que tu joues.
Alors, désolé pour les fans, je ne vais pas jouer mal la musique que Christen joue très bien.
Oui.
c'est pas possible. Mais je vais jouer de la musique que je joue en ce moment, que je crée en ce moment, où il y a aussi de l'impro et des choses très, très carrées. Et c'est un lien avec la harpe électrique, quand même.
Ah, oui, oui. Avec de l'électronique, me semble-t-il.
Oui, aussi.
Ouais, ouais. Donc on verra ça ce soir au cinéma La Tournelle, à L'Aïle et Rose. On expliquera comment y aller, c'est d'une simplicité. Je ne comprends pas qu'on ne soit pas plus souvent à L'Aïle et Rose, moi.
Tout à fait, je suis d'accord avec toi.
Ah, on en vient là. Ouais. Alors parlons de vous, Pauline et François, brièvement, hein, parce que quels ont été vos parcours respectifs? Pauline, tu as parlé d'être autrice avant d'être réalisatrice.
Oui, alors, avant d'arriver à la réalisation de documentaires musicaux en particulier, je suis passée par la création sonore, par le sonore.
Ah.
J'ai notamment fait une création sonore qui est, que vous pouvez écouter sur Arte Radio, qui s'appelle Scène de Braise, comment dit-on fuck en breton. Et en fait, pour cette création, j'ai enregistré des gens qui doublent des films en breton. Et là, la particularité, c'est qu'ils doublaient un film classé X. Donc c'était un travail sur le souffle, évidemment sur la langue bretonne. Voilà. Et donc moi, je suis arrivée vraiment par le documentaire, par le son, par la musique. Et j'ai réalisé un premier film justement sur la Crest Braise Academy dont Raphaël a parlé,
d'accord,
qui s'appelle 4 saisons, qui est sorti en 2016. Et moi, j'ai suivi une formation, la cinquième, qui était sur le thème des cordes frottées. Et cette formation m'intéressait plus particulièrement parce que il y avait un certain nombre de musiciens donc qui étaient en compagnonnage, qui sont partis travailler, enfin qui ont travaillé en Bretagne et qui sont partis travailler aussi dans les pays arabes. Et comme j'ai une histoire aussi avec la langue arabe, voilà, c'était l'occasion pour moi, ce film, et en tout cas de suivre l'aventure de Crest Braise Academy, de relier la langue bretonne, la tradition musicale bretonne, avec une ouverture vers d'autres traditions musicales, en l'occurrence la musique plutôt orientale. Voilà.
Ah oui, d'accord.
Et donc petit à petit, voilà, j'étais vers le documentaire musical. J'ai aussi fait des choses autour de la mer et du littoral en étant en Bretagne, avec France Télévisions, entre autres. J'ai écrit aussi, j'étais journaliste. Et puis, bah, il y a peut-être 4 ans maintenant, un producteur de Brest, qui s'appelle Olivier Bourbeillon, qui est producteur à Paris-Brest, m'a permis de rencontrer François Gorin et Christelle Noguès, que je ne connaissais pas, pour être tout à fait honnête. Voilà, j'avais bien vu son album passer à la grande boutique, donc qui était géré à l'époque par Bertrand Dupont, que j'ai filmé justement dans 4 saisons. Donc c'était un nom qui m'était connu, évidemment. Je savais que c'était une harpiste, mais j'étais loin d'imaginer ce qu'elle faisait. Et voilà, l'aventure est partie comme ça. Et juste pour terminer, donc aujourd'hui je travaille depuis Douarnenez, depuis le pôle audiovisuel de Douarnenez, où j'ai aussi créé une coopérative de production audiovisuelle. Voilà, on est réunis à plusieurs professionnels de l'audiovisuel et du cinéma avec des compétences complémentaires, et on a décidé de se mettre en coopérative pour écrire, réaliser et produire des films ensemble.
On reviendra sur tout ça, sur tout ce dont tu viens de parler. François, même question. Alors, tu as un peu ébauché ton parcours. J'ai noté que tu avais écrit des livres sur la musique, sur le rock peut-être. Est-ce que tu peux
préciser ? J'ai commencé par là. Oui, bah, j'ai résumé peut-être un peu rapidement mon parcours tout à l'heure, mais au fond, ce qu'il faut retenir, c'est que j'ai passé des années, des dizaines d'années à écrire sur la musique. Puis pas seulement sur la musique, puisque j'ai écrit aussi sur le cinéma. Mais c'est vrai que j'étais pas a priori prédisposé à un jour écrire ou réaliser des films. Alors peut-être que au bout d'un moment, quand on est critique de cinéma, on voit énormément de films, et parmi ces films, on en voit énormément de pas très bons. Ouais. Peut-être comme ça, inconsciemment, on finit par se dire, bah, au fond, pourquoi pas un jour soi-même se lancer. Mais pour ça, il faut évidemment qu'un sujet nous attrape, quoi. Et donc, dans les deux cas, ça a été des rencontres, parce que c'est ça, faire des films, c'est d'abord rencontrer des gens avec qui on va les faire. Au contraire de l'écriture, qui était vraiment un exercice solitaire, où on est face à sa feuille, son ordinateur, voilà. Et donc, pour le faire court, le premier sujet est venu un peu par une histoire de famille. J'ai un cousin qui s'appelle Bruno Vienne, qui est un cinéaste documentariste aussi, d'abord lancé dans le cinéma animalier avec son oncle Gérard Vienne, qui a fait des grands films avec François Bell en particulier, qui ont vraiment marqué leur époque, qui ensuite s'est dirigé plutôt vers... il était très branché sur le bouddhisme tibétain, donc là, ça se rapprochait de ce qui allait être notre sujet. Et notre sujet, en fait, c'est un ancêtre commun, un ancêtre indirect, mais bon, en tout cas une figure qui comptait pour notre famille, qui est le père Alexis Press, dont l'essentiel de sa vie a passé à reconstruire une abbaye cistercienne dans les Côtes d'Armor, vraiment au fin fond, perdu comme ça, près d'un marais, donc c'est un endroit qui s'appelle l'abbaye de Boquin. Et donc c'est un personnage qu'on avait connu très brièvement parce qu'il est mort au milieu des années 60. Donc Bruno, comme moi, Bruno est un peu plus âgé, mais on était vraiment encore enfant.
Ouais.
Mais cette figure-là continuait de nous hanter parce qu'on en parlait dans la famille. Et au fond, on ne savait pas grand-chose de lui.
Mmh.
Donc ça a commencé par un travail de recherche où on a retrouvé des moines en particulier qui avaient fait partie de ce monastère. Et puis, bon, je n'ai pas passé une heure là-dessus, mais enfin, le temps a passé, on ne savait pas trop comment, en fait, traiter ce sujet, l'aborder de manière cinématographique. Et puis, le temps passant, nos témoins ont soit disparu, soit vraiment beaucoup vieilli, donc ils n'étaient plus tellement utilisables. Et on en est venu à une démarche qui, moi, m'a paru encore plus intéressante qu'un pur documentaire. On appelle ça un documentaire de création, où j'avais recueilli ces témoignages, soit comme ça directement dans des entretiens, soit par des correspondances, voilà. Et on a fait réinterpréter ces témoignages, donc de moines qui avaient été réellement moines, par une troupe, disons, un peu hétéroclite d'acteurs pas toujours professionnels, semi-professionnels, mais qu'on a choisi toujours avec une intention qui était celle de les faire correspondre aux personnages qu'ils allaient représenter, quoi.
Ouais.
Et donc, ce film-là a été tourné il y a 12 ans maintenant, 2013, ouais. Sorti en 2014 chez Candela. Et c'est vrai que pour moi, c'était une expérience complètement nouvelle parce qu'il s'agissait de passer, en l'occurrence, une dizaine de jours avec une équipe. C'était une équipe assez resserrée, hein. Mais ça m'avait beaucoup plu. Ça avait beaucoup plu le fait de faire une œuvre collective, même si on en est quand même le maître d'œuvre. J'avais trouvé ça vraiment, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout connu. Quoi. Donc, est resté l'envie peut-être de renouveler cette expérience, mais pareil, il fallait que le sujet s'impose.
Ouais.
Et donc, alors, Christelle Noguès, c'est une rencontre un peu fortuite où je suis sur un site d'achat en ligne de disques et je vois apparaître une pochette, je ne sais plus comment. Et avec le nom Christelle Noguès dessus, ce nom ne me disait rien, mais bizarrement, la pochette m'a parlé en me disant, pardon, écoute-moi. Non mais c'est bon, ça paraît un peu irrationnel, mais je ne peux y repenser que de cette manière, quoi.
Ouais, ouais.
Donc je me suis procuré le disque, et puis en l'écoutant, ben voilà, c'est l'album qu'a réédité Théo sur le souffle continu,
voilà,
il y a deux ans, qui s'appelle Marc Guez, le tout premier, donc où effectivement Christine est encore dans une démarche très néo-trad, folk, disons, pour le dire vite, avec des chansons en breton. Sur les 8 morceaux, il y en a 4 qui sont chantés, voilà.
Ouais, ouais.
Mais coup de foudre.
Ah,
et puis surtout l'envie de découvrir tout ce qu'elle avait enregistré par ailleurs et qui, on en parlait tout à l'heure, et pas beaucoup. Il y a très peu d'albums.
Ouais, on y reviendra.
Voilà.
Ah oui, donc c'est vraiment par Théo que, en gros, que tu rencontres Christelle Noguès. Mais alors,
la réédition Le Souffle Continu, c'est tout récent.
C'est récent.
Là, je parle d'une découverte d'il y a 10 ans.
D'accord. Ouais.
Mais
il est tombé sur l'original.
D'accord.
Voilà. Et qu'on trouve éventuellement d'occasion encore.
Mais alors, comment rentrez-vous, Pauline et François, en contact tous les deux?
Alors pour moi, ça commence donc par un travail de recherche et une proposition d'article pour Télérama,
ouais.
Qui, à ma grande surprise, a quand même accepté de me donner 3 pages. Bon, c'était un numéro d'été, mais quand même une musicienne que personne ne connaissait.
Ouais,
parce
que
c'est ça le truc avec Christelle Noguès, c'était que vous aviez beau vous tourner vers des spécialistes soit de folk, soit de jazz, soit de musique du monde, personne ne la connaissait.
Ouais,
elle était catégorisée nulle part, ouais. Ce qui d'ailleurs en dit assez long sur sa musique, qui est une musique qui est justement... difficile à classer, quoi.
Ouais.
Mais moi, ça me passionnait, donc j'ai commencé à rencontrer des gens, et en particulier des musiciens, qui l'avaient connu. Et première enquête, donc ça c'est 2017, et j'ai publié l'article à l'occasion des 10 ans de la mort de Christine, parce que bon, j'avais découvert sa musique, mais j'avais aussi découvert qu'elle n'était plus de ce monde, quoi.
Ouais.
Depuis donc presque 10 ans. Et c'est ce premier travail d'enquête qui m'a donné envie d'approfondir, de le poursuivre et de faire un documentaire. Alors c'est vrai, moi j'écrivais plutôt, j'ai plutôt écrit dans ma vie sur les musiques rock, pop et compagnie, et si j'étais un documentariste américain, je serais allé plutôt chercher un vieux bluesman du Mississippi ou des choses comme ça, mais là on avait chez nous cette musicienne que personne connaissait, que moi je trouvais géniale. Je dis, voilà, c'est ça le sujet, quoi. Donc j'ai commencé à travailler là-dessus. J'ai rencontré Olivier Bourbeillon à Paris-Brest, dont parlait Pauline. Et puis, il a eu un peu de mal à trouver le financement, à trouver un diffuseur en particulier, parce que c'est toujours le nerf de la guerre, c'est trouver le diffuseur. Et il y a un moment où le projet patinait un peu, et puis moi, voilà, j'étais tout seul, il fallait à chaque fois faire des dossiers et tout. Et Olivier a eu un éclair de génie, il m'a présenté Pauline, dont j'ai pu voir le documentaire dont elle parlait tout à l'heure, que j'ai trouvé vraiment très beau, et surtout avec un sens de filmer la musique qui tout de suite, moi, m'a convaincu. Et puis, on s'est rencontrés, et le reste appartient à l'histoire.
Et voilà, donc, j'ai rencontré François et Christine en même temps. Et alors, François avait déjà fait un énorme travail de documentation. Ce qu'il fallait trouver, c'était un dispositif, une façon de faire exister Christine Nogues dans un film. Et moi, en consultant toute la documentation réunie par François, j'ai aussi découvert un personnage, et pour moi un personnage de cinéma. Voilà, toute la difficulté était de la faire exister dans un film, sachant qu'elle n'est plus là, et que finalement il existe peu d'archives audiovisuelles d'elle, peu d'enregistrements, comme on a dit aussi tout à l'heure. Donc on a été à la pêche aux images, et dans des endroits classiques comme sur le site de l'INA, donc des archives télévisuelles, puisqu'elle a quand même été filmée. Notamment à France 3, et on a aussi fait le tour des archives personnelles des musiciens, de ses proches, voilà. Et mais on a dû écrire un film avec très peu d'images d'elle, et donc il y avait toujours cette question qui restait, c'est comment la faire exister. Voilà, et c'est comme ça que est arrivé les harpistes d'aujourd'hui, dont Raphaël. Voilà.
Alors je propose qu'on écoute un extrait du film que tu as gentiment sélectionné, et on en parle après justement des harpistes. On écoute donc, on aura trois extraits, c'est le premier extrait.
J'aimais beaucoup comme elle chantait. Je trouvais que elle était adorable. Quand elle chantait, je peux pas expliquer.
Et puis elle avait une manière de mêler son chant à son son de harpe. Vraiment, c'était complètement fondu l'un dans l'autre, comme si la harpe chantait, quoi.
Puis elle avait deux voix différentes, quand même.
Oui.
Elle avait une voix, la voix du Fesnos, mais qu'elle a pu utiliser aussi des fois pour donner sa voix vraiment quand elle jouait, et puis d'autres fois alors une voix très feutrée comme ça quand elle chante, je sais plus comment ça s'appelle, la berceuse là en breton.
Ernest
Sandevichou.
Il n'y avait pas tant que ça de gens qui jouaient aussi bien en chantant aussi bien. C'était un peu l'un ou l'autre, quand même.
Voilà, un extrait du film L'Harpe de Christine. Alors, on entend une musique à la fin. J'imagine que c'est la berceuse dont il est question avant, dont je ne sais pas le titre.
Ernest Sandevichou.
Ah, merci.
Peut-être, Pauline, tu peux expliquer le petit point de montage, parce que c'est intéressant, c'est assez parlant sur notre démarche, parce que là, il s'agit d'associer, de faire se succéder un son de harpe enregistré actuellement avec un son d'archive, ouais, qui ça, est la voix, et la voix qu'on entend, c'est celle de Christine.
Ouais. Alors, je ne sais pas si vous l'avez perçu, ce petit point de montage. Donc, d'abord, il y a des voix. Donc là, vous entendez les voix, mais en voyant le film, vous verrez aussi ces personnages donc, qui sont les amis musiciens de jeunesse de Christine Nogues, donc du groupe Neve Noé. Mmh. Voilà, qui commente le début de carrière de Christine quand elle chantait en breton et jouait de la harpe en même temps. Et cette berceuse, donc Irnes Ndevechou, on a demandé à deux harpistes du collectif ARP, A-R-P, oui. Qui, il y a quelques années, ont fait un spectacle sur Christine Nogues. On a demandé à deux harpistes de reprendre deux morceaux de Christine Nogues, dont celui-ci, ouais, pour le film. Puisqu'en fait, tout le film se passe dans un théâtre. C'est-à-dire qu'on convoque les témoins qui vont nous raconter l'histoire de Christine Nogues et des harpistes, des musiciennes, qui réinterprètent sa musique. Et là, donc, c'est Clotilde Trouillot qui commence par jouer Irnes Ndevechou, donc en live pour nous, pour le film. Ouais. Et son interprétation est tellement proche de l'enregistrement qu'on entend ensuite avec Christine Nogues qui chante au coin du feu, qui est toute jeune, que par le truchement du montage, on a réussi en fait à créer un extrait où on a l'impression, quasiment l'impression, je pense pour les oreilles, ouais, qui sont habituées, on entend, mais il y a une continuité vraiment sonore, quoi. Ouais. Ouais, ouais. Tu l'as entendu, le point de...
Mais alors, pas du tout. Ouais. Il y a deux harpistes, là.
Alors, voilà. Évidemment, quand on voit le film, bon, à l'image, la harpiste actuelle est, comme l'a été Raphaël, filmée sur la même scène de théâtre, ouais, ouais, que les témoins. Et évidemment, l'image de l'archive, c'est, on voit aussi Christine Nogues. Moi, je voudrais juste revenir sur les trois voix qu'on entend au début.
Après, je vais vous demander après. Ah oui, tu parlais d'un théâtre, c'est où? Moi, c'était une question.
C'était le théâtre La Passerelle à Saint-Brieuc, qui a été notre maison pendant 5 jours, au tout début, au moment de la Toussaint.
Fin octobre 2023, en ça, pleine, ouais, tempête. Si
c'est la semaine où il y a eu une terrible tempête, en particulier sur la Bretagne, et en particulier sur le Finistère. Bon, nous, on était Saint-Brieuc, bon, ça va, mais on l'a senti passer quand même. Hein.
Ah oui.
On était à l'abri, mais...
Les murs ont tremblé, les lustres,
voilà, et
les
puis notre logistique a été un peu mise à mal aussi, parce qu'il y avait des gens qui se déplaçaient en voiture de divers endroits de la Bretagne, et que certaines routes à un moment ont été coupées. Donc voilà, c'était chaud, quoi.
Alors, dans le film, vous avez choisi de ne pas indiquer les noms ni les qualités des personnages. Est-ce qu'il y a une raison particulière pour cela ?
Oui, il y a une raison. Alors, c'est vraiment un point qui a été énormément discuté. Un point de montage du film qui a été énormément discuté, et avec le producteur et avec le diffuseur, donc, qui est France 3. Mmh. Puisque la convention en documentaire dit que quand une personne apparaît à l'écran pour raconter, expliquer, on indique son nom et éventuellement sa fonction. Ouais. Nous, on a décidé de ne pas le faire parce que on pense que ça détournait l'attention des spectateurs, et que au fil du film, on est capable de comprendre quelle place à chaque témoin vis-à-vis de Christine Nogues.
Ouais, c'est clair. Hein,
ouais. Au niveau, c'est toutes les personnes qui ont témoigné ont eu un lien intime avec Christine Nogues, que ce soit son amie, sa fille, ses amis des premiers jours. Ouais. Et pour nous, il était plus important de sentir ce lien-là de façon émotionnelle que de lire un nom avec une fonction. Et en plus, pour certains témoins, il y a des musiciens, mais il y a aussi des auteurs, des compositeurs, des compositrices, etc. Donc c'était aussi difficile. Moi, je trouve toujours difficile de résumer une personne à une seule fonction.
Ouais, bien sûr. Sachant aussi que ces noms étaient parlants parfois pour une petite partie, disons, de ce qu'on pouvait estimer être notre public, ouais, mais pour d'autres, pas du tout.
Ouais,
donc, au fond, on s'est dit, à quoi bon les nommer si c'est pour que les gens se demandent, mais qui c'est, enfin, à part, évidemment, qu'ils sont présents et qu'on... et que à travers leurs témoignages, on comprend qu'ils sont musiciens.
Oui, ou oui, on comprend
autre
tout,
chose.
Oui, ça, je vous rassure. Ouais,
ouais. Mais on peut les citer quand même. C'était là un peu où je voulais en venir. Parce que
ah, d'accord.
Les trois qu'on entendait, donc c'était les trois compagnons donc de ce collectif qui a été créé au début des années 70, qui s'appelait Neve Noé, et qui était un label, qui était une sorte de
coopérative,
absolument. Et sur ce label a paru le premier album Marcouez.
Ah, voilà.
Donc il s'agit de Mylène Favennec, Gérard Delahaye et Patrick Ewen. Delahaye et Patrick Ewen étant les deux à l'initiative, enfin les deux fondateurs. Mais Gérard Delahaye et Mylène Favennec font partie des deux que j'avais rencontrés pour le premier travail d'enquête dont je parlais tout à l'heure, pour l'article dans Télérama. Et c'était frappant en fait de rencontrer ces gens qui déjà me faisait vraiment un bon accueil. J'allais chez eux, enfin ils étaient très très chaleureux, et surtout c'est ça qui m'a conforté dans le projet, hein, d'en faire un film. À chaque fois ils me disaient mais enfin on parle d'elle.
Ah ok.
Comme si en fait ils avaient attendu qu'il y ait quelqu'un, je sais pas, n'importe qui, mais enfin qui s'intéresse vraiment à ce cas très singulier qui est Christine Noguès dans la musique bretonne, dans la musique en général. Et ça, évidemment, pour moi, ça a été un encouragement formidable. Donc j'en ai évidemment, à la suite de ça, j'en ai rencontré d'autres. À l'époque, j'avais aussi vu Jacques Pellen, qui aurait pu être un témoin crucial dans notre film, qui malheureusement a disparu, puisqu'il est mort du Covid en 2020, donc 3 ans avant qu'on tourne. Et 2017, donc moi, j'avais eu l'occasion de le rencontrer à Brest. Et lui, il a été très important, puisqu'il a été à la fois le compagnon et le partenaire musical de Christine Noguès pendant les 25 dernières années de sa vie.
Mmh. Ah oui, voilà. Et alors, ben justement, tu parles du collectif Neve Noé. J'aurais voulu en savoir plus sur ce collectif. Est-ce que vous connaissez un petit peu son histoire ou quelques mots sur eux?
Oui, bah, c'est un peu ce que je racontais tout à l'heure. Gérard Delahaye, Patrick Ewen étaient musiciens bretons un peu en quête à la fois d'une identité et d'un public. Et puis, ils se sont dit, bon, bah voilà, on n'a qu'à créer notre truc. Ils avaient une sorte de, pas de dogme, enfin de principe de rester en Bretagne et de ne pas aller à Paris, parce que ça, c'était la trajectoire habituelle pour
c'est
un musicien.
C'est dit dans le film, ça,
quelle que soit sa région d'origine, c'était pour percer, faut aller à Paris. Ouais. Monter à Paris, comme on disait. Et eux, ils ne voulaient pas monter, ils voulaient rester chez eux. Et après, c'est aussi le pur produit d'une époque où on essayait de faire les choses collectivement. Après, bon, ils ont une réputation, ce qui n'était pas toujours justifié, ce n'était pas une communauté. Bien qu'il y ait eu le moment où, pour des raisons très simples d'organisation pratique, ils vivaient les uns à côté des autres dans une sorte de petit village ou hameau dans les Monts d'Arrée.
Ce qui est toujours le cas, je crois.
Alors, pour certains, mais... et donc, ils ont été deux, puis ils ont été trois, et puis finalement, ils ont été sept, je crois. Et alors, Christine, ils sont allés, ils avaient entendu parler d'elle. Alors, elle, c'est 72, elle venait juste de revenir avec ses parents vivre à Morlaix.
Ouais.
Il faut savoir, on en parlera peut-être par la suite, mais qu'elle n'a pas grandi en Bretagne.
Oui.
Elle est d'une famille bretonne, mais c'était des expatriés bretons qui habitaient dans la banlieue ouest de Paris, du côté de Versailles.
Ah, ok.
Le Chênay.
Ah bah oui.
Et c'est là qu'elle a passé toute son enfance et son adolescence. Et quand ses parents ont pu revenir vivre en Bretagne, parce que là aussi, il y a une histoire familiale assez complexe qui fait qu'ils avaient été en fait bannis de Bretagne à la Libération, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale.
Ah oui.
Et là, bon, ils avaient l'autorisation de revenir. Et à ce moment-là, Christine a 20 ans. Et Christine avait un peu laissé tomber la harpe. Elle va retrouver sa vieille amie Marie-Annick Larcantec, dont parlait tout à l'heure Pauline. Elles étaient amies d'enfance, elles avaient joué de la harpe dans un petit groupe.
Ouais.
Et Marie-Annick était devenue prof de harpe. Et un jour, Christine va chez elle en lui demandant « Est-ce que tu peux me redonner des cours de harpe ?» Donc elle s'y remettait, et c'est dans ce contexte-là que les deux gars de Neve Noé ont un jour débarqué chez elle.
Ah, voilà.
Voilà, on a entendu parler de toi, elle leur a joué de la harpe. Ils étaient, comme ils disaient, subjugués. C'est le mot qu'ils ont employé, qu'ils emploient dans le film. Et elle a été partante donc pour les rejoindre. Alors c'est une époque où elle est très dans le prosélytisme, langue bretonne, elle l'enseigne même, et elle tient absolument à chanter en breton, elle est vraiment bretonnante à ce moment-là. Elle rencontre de plus un jeune médecin qui devient son mari. Et ensemble, ils chantent dans les fesses-noses. Enfin, ils sont à fond dans le trip. Mais c'est les années 70. Hein, le trip bretonnant, sachant que le mouvement, disons, j'allais dire identitaire, c'est peut-être pas le mot, mais enfin... là, il est plutôt passé du côté de la gauche, voire de l'extrême gauche.
Ah oui, bien sûr.
Et Neve Noé, c'est un collectif aussi qui a été très présent au moment des luttes dans les années 70. Donc la centrale, l'installation de la centrale nucléaire à Plougoff, le joint français, etc. Et ils étaient très souvent sollicités pour aller jouer, en fait, au moment des manifestations, des réunions, comme ça. Mmh. Et le film voilà, commence avec l'époque Neve Noé.
Ouais. Alors, moi, je signale qu'il y a un livre, Neve Noé, coopérative utopique, de Olivier Pollard, Alain Gabriel Monod et Arnaud Le Gouet-Fleck, aux éditions de Juillet. Alors, Théo, le premier disque de Christelle Noguès, Marche Gwen, est sorti donc sur ce label Neve Noé, parce que je ne sais pas si on l'a dit, mais ils faisaient de la musique, ils jouaient dans les manifs, mais ils avaient aussi un label sur lequel
Sortaient leur propre, propre projet.
Voilà, donc vous...
Oui, leur principe, c'était que tout le monde jouait sur les disques des autres, en fait.
Ah oui, d'accord. Donc ils ont sorti cet album que vous avez ressorti au Souffle Continu. Ma question, c'était, est-ce que vous êtes penché au Souffle Continu sur les 12 autres titres du catalogue de Neve Noé? Est-ce que vous avez jeté une oreille?
Ouais, tout à fait. Et Christelle Noguès sortait vraiment du lot.
J'approuve. Non, mais c'est aussi intéressant avec ces groupes, et c'est aussi pour ça, je pense, que ça n'a pas duré au-delà... Enfin, ça a quand même duré 7 ans, ce qui est pas mal, hein, entre 73 et 80, jusqu'à Plougoff, comme disait Yvon Lemaine dans le film. Et musicalement, ils n'étaient pas tous sur la même longueur d'onde. Seulement, ils avaient un même élan, il y avait une même dynamique, ils étaient contents de créer ensemble. Mais leurs styles musicaux étaient variés. Hein. Par exemple, Gérard Delahaye, lui, était quand même plus proche de la chanson.
Oui, c'est de la chanson.
Melaine aussi, Melaine Favennec. Ouais. Patrick Ewen, lui, était plus dans le trad musique écossaise du 17e ou 18e siècle. Enfin. Et puis, Yvon Lemaine, lui, était même pas musicien, lui, il était poète.
C'est le poète.
C'était un jeune poète qui se produisait dans des bars, enfin, voilà, qui déclamait. C'était un poète un peu rock pour l'époque. Quoi. Et tout ça ensemble constituait une force, mais naturellement il y a le moment où ces divergences musicales font que chacun va se dire moi je préfère aller mon chemin ici, là. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ne sont pas brouillés, ils ne sont pas fâchés du tout.
Ah, ils ont l'air très...
quand le collectif, quand ils se sont séparés, ils étaient toujours bons amis. Et ils sont restés d'ailleurs. Ceux qu'on voit témoigner dans notre film, Gérard Delahaye, Melaine Favennec, Patrick Ewen, sont restés. Yvon Lemaine, bien sûr, qui a retravaillé avec Christen pour des disques de poésie accompagnés à la harpe. Ils sont restés vraiment en très bons termes, bon même s'ils la voyaient moins. Quoi.
Je propose qu'on écoute un extrait de Marche Gwen, donc sorti initialement chez Neve Noé et ressorti chez Le Souffle Continu. On va écouter Enes Rouze, du disque Marche Gwen de Christelle Noguès.
C'est le premier, ça. Thank you.
cavaliers nous sentus en moi. Là vous se disquise en rôle, voir d'avant rafloué
Radio Libertaire, vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres, consacrée aujourd'hui à la harpiste Christène Nogues, qu'on vient d'écouter dans un extrait de son premier, de son disque, pardon, Marche Gouez. Alors revenons au film, Pauline François. J'aimerais que vous nous expliquiez, que vous nous parliez du dispositif dans lequel les témoignages ont été tournés. Alors, pour expliquer brièvement, il y a un décor, une petite lampe, un fauteuil, et surtout un système de double écran. J'aimerais que vous nous expliquiez ce système de double écran devant lequel les témoins sont filmés, ce qui fait que pour certaines images d'archives, on les voit à travers pas directement à l'image, mais à travers ce double écran, et aussi au travers du regard de l'intervenant. On voit l'intervenant regarder ce double écran. Comment, pourquoi avez-vous imaginé ce dispositif ?
Alors, ce dispositif, on l'a imaginé pour plusieurs raisons. D'abord, on est parti avec l'idée de créer un huis clos dans lequel on allait réunir les témoins et les musiciennes, qui allait nous faire revivre en fait l'histoire de Christène Nogues et qui allait nous faire aussi qui allait nous partager en fait des histoires et des émotions autour de ce personnage. Et donc ce huis clos, on l'a imaginé sur une scène de théâtre. Et sur cette scène de théâtre, on a donc installé deux écrans qui sont deux feuilles en fait de théâtre qu'on a assemblées et sur laquelle on a projeté les images d'archives qu'on avait sélectionnées dans le but de présenter ces images-là aux témoins et qu'ils puissent nous raconter en fait directement au contact des images. Ouais. Donc il y avait on cherchait une forme de spontanéité. On cherchait aussi à aller faire naître des émotions auprès des témoins et aussi à par ce dispositif à créer une sorte d'expérience médiumnique comme on l'a appelé, c'est-à-dire de réussir à faire exister l'esprit de Christène Nogues dans ces lieux. Et c'est vrai que ces écrans étaient tellement grands, quand on projetait donc les archives de Christène Nogues, elle apparaissait en très grand sur ces écrans. Ouais. Et les témoins nous ont tous dit qu'ils avaient l'impression qu'elle était là. Voilà, donc...
Et je crois pas seulement même à cause de la taille des images, hein, je crois que c'était aussi le fait d'installer cette intimité sur une scène de théâtre, un théâtre, un vieux théâtre avec une âme, quoi. Et puis que nous on habitait et dans lequel on accueillait au fur et à mesure tous les protagonistes. Et l'idée effectivement c'était qu'on filme un endroit habité et qui si possible suscite, alors évidemment par les images qu'on projetait, donc c'était deux panneaux à angle droit, ça c'est un système qu'on avait décidé à la suite d'une discussion avec le chef op.
Simon.
Qu'on voit, hein, qu'on a vu déjà dans d'autres documentaires, mais là, la particularité, c'était qu'il y avait même quand les témoins arrivaient dans le théâtre, ils étaient même parfois un petit temps de surprise, ouais. Parce qu'ils comprenaient qu'ils allaient être sur une scène. Donc, d'une certaine manière, jouer un rôle, ils étaient eux-mêmes, ouais. Mais je crois qu'il y avait, alors il y avait peut-être un petit côté intimidant, mais qu'au fil de la conversation, parce qu'on a filmé les entretiens sur la durée, hein, c'était toujours assez long.
Ouais. Entre 2 et 3 heures par
ouais,
témoin,
mais
il se passait toujours quelque chose en fait, voilà. Pour chaque entretien. Le fait d'être sur ce temps-là, sur la scène, avec ces images-là, dans ce dispositif. Voilà, il s'est passé des choses.
Je crois que c'est quelque chose qui a bien marché. C'est-à-dire qu'au fil de l'entretien et de ce qu'on évoquait, qui était souvent très intense émotionnellement, moi je le ressentais parce que Vapoline était plutôt du côté de la caméra. Moi j'étais plutôt, je posais les questions. Ah, voilà. On n'entend pas ma voix, mais ouais. C'est quand même un entretien assez classique.
Ah, bah, c'est la question que j'allais te poser. Ouais. Est-ce que vous posiez des questions ou vous laissiez réagir librement librement.
Alors il y avait les deux. Ouais. Moi j'avais évidemment préparé des questions comme pour un entretien classique. Ouais. Mais il y avait aussi des réactions aux images.
Ouais, voilà, ouais.
Ça, c'était l'idée aussi de les filmer en amorce avec derrière l'image d'archive. Ouais. Et ça a produit vraiment quelque chose, mais même peut-être un peu au-delà de ce qu'on espérait, quoi, il me semble. Enfin, moi, je me souviens au fil de certains entretiens où il y avait quelque chose qui se passe, quoi. Et même pour moi, parfois, c'était pas si facile, quoi, de maintenir comme ça un cap d'une grille de questions. Voilà.
Alors, moi, j'étais étonné en voyant le film. Alors, tu l'as un petit peu expliqué, Pauline, mais il y a vraiment des images, on la voit très très jeune. Donc, bon, après, il y a des images, on comprend très bien que c'est des images de France 3, enfin, oui, France 3, FR3 à l'époque, j'imagine.
Oui.
Mais il y a aussi des images, on la voit très jeune, c'est pas la télévision, ça, c'est des images personnelles, ça, d'archives personnelles.
Si, toutes les images, en noir et blanc, ouais, au début du film.
Très jeune artiste de 15 ans, au moment où elle jouait justement dans ce petit ensemble qui se baladait un peu partout en France, de 4 artistes avec Marianne.
Une actualité en langue bretonne où il présentait cette jeune harpiste Christelle Noguès de 15 ans, c'est une archive en langue bretonne. Si, et on a retrouvé quand même une archive incroyable à la Cinémathèque de Bretagne. Il se trouve que Christelle Noguès, donc, elle habitait à Paris, donc avec ses parents, comme François expliquait, et puis l'été, elle allait faire des camps en Bretagne, des camps en langue bretonne. Voilà, espèce de huis clos où la communauté des bretonnants se retrouvait pour différentes activités pendant voilà, plusieurs jours, plusieurs semaines. Et il se trouve qu'on a retrouvé des images de ces camps bretons à la Cinémathèque. Moi, j'avais contacté la Cinémathèque de Bretagne pour savoir s'ils avaient des archives sur Christelle Noguès. Ils n'avaient rien du tout. Quelques jours après, une des personnes qui gère en fait les archives m'a recontacté en me disant bah, « on vient de rentrer une archive ». Vieille, je crois que c'était 69, il me semble.
Ouais. En tout cas, c'est les années 60. Hein.
Ouais,
c'est en noir et blanc. Ouais.
Et une archive.
Vu l'âge, enfin vas-y.
Dans laquelle Christelle Noguès a été identifiée. Et effectivement.
Bah, elle apparaît furtivement.
Il y a 3 secondes où on la voit, mais alors toute jeune.
Mais c'est elle.
Et c'est elle, en fait. Donc ça, c'est une archive cinémathèque. Une archive, on va dire, amateur. Qui n'est pas passé à la télé, quoi.
Ah, voilà. D'accord. Ouais. Alors, on va pas divulgâcher tout le film pour les spectateurs. Bah,
surtout, il y a un suspense insoutenable. Hein,
les spectateurs et spectatrices qui viendront ce soir, évidemment, à La Haie les Roses. Mais quand même, au long du film, se dessine l'image de quelqu'un de complexe. On a quand même l'impression, tourmenté parfois, mais aimant rire. Comme le dit sa fille elle-même, elle parle d'un clown triste. Comment est-ce que c'était une image que vous aviez, vous saviez que ça allait aller vers ça, vous le saviez en amont, ou vous l'avez découvert en tournant ou avec les témoignages ou...
Dès qu'on parlait d'elle, avec ceux qui l'ont connue de près, ce qui est le cas, hein, des témoins qu'on voit dans le film, il y avait tout de suite quelque chose de l'ordre d'un personnage à au moins deux facettes. Quoi. Bon, ça fait un peu cliché, mais je crois que c'est vraiment le cas. Quoi. Une facette très lumineuse, très rieuse, très joie de vivre, dynamique et tout. Et cette facette-là, c'est celle qui apparaissait sans doute le plus dans les années Nevenoé.
Ouais.
Alors c'est vrai qu'ils sont peut-être pas les plus passionnantes musicalement, mais je crois que d'un point de vue humain, de l'expérience humaine qu'ils ont vécue à ce moment-là, c'est probablement le moment où elle était le plus heureuse. Quoi. Mmh. Et ensuite, disons que la face plus sombre a peu à peu pris le dessus, mais c'est, pour moi c'est toujours un sujet de perplexité, c'est aussi la période où musicalement elle a cherché davantage, elle a creusé davantage, et où elle est allée vers quelque chose de plus original, de plus propre à elle-même, quoi. Mais avec toujours cette difficulté d'expression, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui au bout d'un moment, pour elle se produire sur scène devenait une douleur, devenait compliqué. Elle avait du mal parfois à connecter avec les musiciens qu'elle accompagnait ou qui l'accompagnaient, et d'un autre côté, elle avait aussi du mal avec le fait d'être au centre de l'attention. Et puis, alors, sa névrose dont on a déjà parlé tout à l'heure, c'était l'enregistrement. C'est-à-dire qu'elle avait la hantise d'aller dans un studio pour graver quelque chose de définitif, parce que pour elle, une fois que c'était dans la boîte, elle ne voulait plus en entendre parler, elle n'en était pas contente, elle pensait qu'elle pouvait faire mieux. Donc ça, c'est un peu le syndrome du ou de la perfectionniste qui finit par avoir un instinct presque autodestructeur. Alors que bon, ça c'est présent dans certains témoignages qu'on entend dans le film, dans son entourage, on lui disait mais il faut, Christine, que tu enregistres des choses pour que ça reste. Voilà. Et elle
l'idée même de la trace,
ouais,
lui faisait peur. J'ai l'impression.
C'est ça. C'est je crois aussi le
quelque chose qui reste.
Elle aimait le fait de simplement de se mettre en valeur, de mettre son nom en avant. Ouais. Tout ça pour elle était complexe. Et puis il y a aussi son rapport avec la langue bretonne. Alors, je racontais tout à l'heure que quand elle revient vivre avec ses parents à 20 ans, elle est tout feu, tout flamme et toute bretonnante. Et que ça a duré quelques années. Et le moment où, avec les Nevenoé, ils vivaient dans ce hameau des Monts d'Arrée, c'était sympa de parler avec les voisins ou avec le boulanger ou avec des gens du coin qui parlaient breton. Mais à partir du moment où elle va vivre à Brest, alors ça, c'est la période où elle a quitté son mari. Elle a une fille très jeune qui s'appelle Catel. Et elle a rencontré Jacques Pellen, et là, ils vont vivre à Brest. Pendant toute la période brestoise, cet aspect, disons, bretonnant et militant disparaît. Enfin, ou en tout cas, s'estompe.
Oui, d'accord.
Mais tout en... Je pense que malgré tout, il restait au fond d'elle un rapport passionnel avec la Bretagne et la langue bretonne.
Et passionnel et compliqué. Je crois que c'est Yvon Lemaine qui le dit à un moment donné dans le film. Il y avait des mystères en elle, et même ses plus proches amis n'avaient pas véritablement accès, en fait, à ces mystères. J'ai l'impression que il y avait certains endroits d'elle à l'intérieur qui étaient vraiment inatteignables. Elle gardait des choses très sombres pour elle. Alors évidemment, on a essayé de chercher, de comprendre, mais voilà, c'est resté compliqué. Et c'est aussi pour ça, donc pour moi, ça en fait un personnage de cinéma, puisque on est tout le temps en train de chercher qui elle est, et à commencer par ceux qui parlent d'elle, quoi. Et je trouve que ça, c'est aussi assez passionnant de faire le portrait de quelqu'un, bah voilà, qu'on a du mal à cerner.
Ouais,
mais c'est quelque chose qu'on retrouve aussi dans sa musique, et moi c'est ça que je trouve absolument fascinant, c'est que c'est une musique, mais même celle des débuts, mais encore plus celle de la fin. Il y a un album qui s'appelle Anévor, enregistré en 1999, et alors certains trouvent ça d'une tristesse insondable, mais pour moi il y a toujours eu cette espèce de rapport d'interférence entre l'ombre et la lumière en permanence, sa musique. Et je trouve que c'est aussi ça qui rend cette musique aussi prenante, je crois. Alors, c'est pas du tout univoque, c'est à la fois très limpide et ça va chercher dans des recoins obscurs.
Il y a un autre thème abordé dans le film, moi, qui m'a interpellé, c'est la difficulté d'émerger pour une femme dans la musique. On sait, mais en particulier dans la musique bretonne. Est-ce que vous pouvez évoquer ça un petit peu?
Oui, alors donc déjà on parle d'une époque, les années 70. ou déjà existé donc en tant que femme dans le milieu artistique et musical, c'était compliqué. Et paraît-il d'autant plus dans la musique bretonne, puisque bon, bah, on va dire dans la musique traditionnelle bretonne, il y a des chanteuses, quelques chanteuses, mais on va dire que les instrumentistes sont plutôt des hommes. Et au niveau de la harpe, celui qui est connu, qui va être connu, c'est Alan Stivell,
oui.
Donc un homme. Voilà, donc il a fallu que Kristen Nogues arrive à conquérir sa place dans ce milieu-là, et ça a été compliqué, et elle notamment, elle a peut-être réussi en se mettant au même niveau que les hommes, donc aussi en vivant des tournées chaotiques, des excès. Elle avait une fille, donc c'était aussi être éloignée de sa fille, de sa famille pendant longtemps. Voilà, c'était exister en tant que femme sur la scène musicale à l'époque, c'était extrêmement compliqué. Ouais. Bon, je pense que voilà, c'est moins le cas aujourd'hui. Ouais. Mais elle a aussi évolué dans ce milieu-là où voilà, elle a dû plutôt cacher le fait qu'elle soit une femme et plutôt essayer de faire comme les hommes. Moi, ouais. c'est comme ça que je l'ai compris. Mmh. Voilà.
Mmh. Il y a des obstacles qui se sont cumulés.
Ouais.
C'est-à-dire que ce que dit Pauline est tout à fait vrai sur la place des femmes. Il y avait pratiquement pas d'artistes solo femmes.
Ouais.
C'était rarissime. Mmh. Et vouloir comme ça, et justement peut-être qu'elle ne le voulait pas autant que ça, mais s'imposer comme femme musicienne solo, c'était... Et puis, alors, musicalement, au début des années 80, c'est la période où il y a eu une espèce, pas d'engouement, mais enfin, il y avait un truc de promotion de ce qu'on considérait être la musique bretonne.
Ah oui.
Et de ce point de vue-là, elle a été considérée comme traître à la patrie. C'est-à-dire qu'elle ne collait pas non plus sur le côté purement musical. Quoi. Et en plus, c'était une femme. Quoi. Donc là, c'était la totale. Et donc, comme dit Pauline, elle a dû, comme ça, batailler, être une femme et parmi les hommes, donc un peu un homme aussi parmi les hommes. Et tout en ayant quand même une vie de femme, elle avait un petit enfant, enfin, une vie de famille, enfin, le peu qu'il en restait. Et ça n'a jamais été facile pour elle. Alors après, bon, maintenant, peut-être Raphaël pourrait en parler, la place d'une musicienne femme est peut-être, c'est un peu moins compliqué, mais là, on parle quand même d'il y a, d'il y a 50 ans, 40 ans.
Ah bah, justement, pour quelle raison avoir fait appel à Nout, au trio Nout, que nous, on connaît bien à Radio Libertaire maintenant, et comment êtes-vous rentré en contact?
Vas-y.
Oui, alors moi, j'aimerais bien entendre Raphaël, justement, nous parler de
on va l'entendre,
la place oui. d'une femme dans le milieu musical, et, oui. et aussi entre autres dans le milieu de jazz. Alors Nout et surtout j'ai envie de dire Raphaël Rinaudo, donc moi je suis tombée sur alors on cherchait des femmes harpistes pour venir réinterpréter la musique de Kristen Nogues dans le film, donc François avait déjà identifié le collectif Harp dont on a déjà parlé, donc Clotilde Trouillot et Christine Merienne.
Alors qu'ils sont deux membres d'un collectif qui est en général de 5 ou 6, c'est pas toujours les mêmes. Okay. Moi je les avais vus en concert, ça m'avait fasciné parce qu'il y avait à la fois d'harpe acoustique, d'harpe électrique qui jouaient en même temps. Et ils étaient devenus un peu des spécialistes du répertoire de Kristen Nogues et un peu des porte-parole.
Okay.
Mais alors, bon, tu vas continuer Pauline, mais eux ils refaisaient Kristen Nogues un peu à la manière d'eux, enfin sans s'écarter tellement.
Oui, oui.
Et c'est là qu'on avait besoin de quelque chose d'un peu plus disruptif.
Oui, elles le font magnifiquement bien.
Oui, elles le font magnifiquement bien, mais elles restent dans une esthétique avec un respect incroyable.
C'est ça.
Tout à fait.
C'est un peu les gardiens de la flamme.
On sent tout de suite ça. Dès les premières notes.
Et moi, je cherchais, c'était une intuition, hein, le pas de côté. Voilà, parce que pour moi, Kristen Nogues, c'était le pas de côté permanent par rapport à la musique qu'elle jouait à son époque. Et donc, quelque part, je cherchais une harpiste qui aurait pu aussi faire ça aujourd'hui dans le milieu musical. Et donc, j'ai écouté des choses et je suis tombée sur Raphaël Rinaudo, qui à l'époque était artiste associé à Plage Magnétique à Brest. Et j'ai écouté Et là, je suis tombée de ma chaise avec sa harpe électrique.
Sauté à pieds joints dans la plaque. Plof, plof, plof.
Totalement punk pour ce que j'ai pu voir ou écouter. Et j'ai vu qu'elle était passée par la Cresbrez Academy. Donc aussi, a priori, une sensibilité pour les musiques traditionnelles. Enfin, énormément de choses qui me faisaient penser que sans doute qu'elle devait connaître Christine Nogues et sans doute que ça devait lui parler. Donc voilà, on s'est mis en lien. Et puis ben, on a proposé à Nout, donc, qui est un trio, de s'emparer de deux ou trois morceaux, je crois, de Christine. Deux morceaux. Et Raphaël m'a demandé, mais alors, qu'est-ce que vous attendez de nous? Vous voulez qu'on vraiment réinterprète ou on fait du Nout? Je dis, vous avez carte blanche, quoi. Voilà.
Et elles ont fait du Nout.
Elles ont fait du Nout.
Et dans le film, ça le fait.
Ça le fait carrément. Faut pas dire ça, Raphaël, carte blanche. Faut pas dire ça. Mais bien sûr qu'il faut lui dire ça. Et Laura, carte blanche ce soir. Bah, du coup, je propose qu'on écoute Nout, qu'on se remémore ce fabuleux trio Nout.
femme avec une harpe, c'est voilà, les grands cheveux, le vent dans les cheveux, gling, 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 gling. Ça, ça marche d'enfer, quoi. Tout le monde en Bretagne est solidaire de cette image-là. Et Christine, avec sa harpe, avec ses cheveux courts, elle disait, blan, bambier, non, c'était du punk. C'était antinomique avec l'image de la harpe. Et c'était ça sa recherche. Elle était fière, je pense, d'aller chercher autre chose avec cet outil-là. Mais c'était entrer dans une mine de charbon, quoi.
Radio Libertaire, la radio de la Fédération Anarchiste, 89.4 en région parisienne, partout ailleurs, radio-libertaire.net. Vous êtes à l'écoute de l'émission Les Oreilles Libres. Aujourd'hui, nous parlons de la harpiste bretonne Christine Nogues. Nous venons d'écouter Nout, Inondation. Alors Nout, c'est Delphine Joussin à la flûte, Blanche Lafuente à la batterie et Raphaël Rionodo à la harpe. Et puis on vient juste à l'instant d'écouter un autre extrait du film La Harpe de Christine. Raphaël, un des messieurs bretons dans le film, parle de Christine comme d'une punk. Je pense que ça te correspond bien, me semble-t-il. Punk.
Peut-être, oui.
Il me semble. Je sais pas, j'ai une idée comme ça. À la fin de l'extrait, là, ce qu'on vient d'entendre, nous te reprend, c'est un morceau de Christine Nogues.
Tout à fait, et qu'on a façonné façon Nout, ce qu'on aime bien faire après des choses qui sont plutôt de la trance. Mais d'ailleurs, ce morceau, finalement, on l'a gardé dans le répertoire, on le joue en concert maintenant.
Ah d'accord.
Sous le nom de Nuit de Saba.
Ah c'est ça, d'accord. Ouais.
Et voilà.
Ouais. Ça en dit long.
Et alors, comment toi es-tu rentré en contact avec le répertoire de Christine Nogues? Est-ce que tu l'as interprété en dehors de avant le film?
Mais non, c'est le ratage, mais c'est pas français, mais c'est en fait c'est un rendez-vous raté pour moi.
Ouais.
Cette harpiste, puisque j'ai jamais joué sa musique, je ne l'ai écoutée qu'une fois quand j'étais enfant, dans un contexte un peu particulier. Et il se trouve que j'ai découvert ça un jour en rentrant de la grande boutique, qui est donc le lieu où son producteur Bertrand Dupont, dont on a déjà parlé, travaillait. Et il m'a dit, tiens, Raphaël, j'ai un disque pour toi, écoute ça. L'harpiste, pas la personne qui joue, est décédée il y a 2 jours, ou la veille, je ne sais plus. Mmh. Et moi, j'écoute ça dans ma voiture en rentrant à Paris, parce qu'il faut savoir que la grande boutique est à Langonnette, à savoir 7 ou 8 heures de voiture de Paris. Donc on en écoute des disques sur la route. Ouais. Et donc là, il s'agissait d'un double disque. J'ai tout écouté, j'ai pris une baffe monumentale et j'étais en plus vraiment ennuyée de savoir que cette musicienne venait de décéder, puisque ça gâchait toute possibilité de rencontre.
Eh oui, alors il me semble, tu l'exprimes dans le film, il me semble que tu l'as vu en concert quand tu étais toute jeune.
Tout à fait, je l'ai vu en concert, je devais avoir, je sais pas, une dizaine d'années. Et il faut savoir que il y avait un super festival quand j'étais enfant à Arles, qui s'appelait Journée de la Harpe. Et donc pendant 3-4 jours, je sais plus, aux vacances de la Toussaint, venaient toutes les harpistes de France, les profs, leurs élèves. Enfin, c'était vraiment the place to be pour qui joue de la harpe. Et d'ailleurs, avec Théo, c'est là que j'ai rencontré la harpiste qui joue avec Sony Simons, voilà, Delphine. Et il se trouve qu'il y avait des concerts, des stages. Enfin, c'était vraiment très chouette comme festival. Et donc, moi, enfant, j'y suis allée. Et Christiane Noguès a été programmée un soir. Donc, gentiment, avec ma maman, mes petits disques dans mon sac, je suis allée écouter le concert. Et en fait, il se trouve que l'harpiste que j'ai vu sur scène était, pour moi, de mon point de vue d'enfant, extrêmement étrange, dans un état assez particulier. Et j'ai le souvenir d'avoir vu une personne qui jouait effectivement divinement bien de la harpe, mais qui a eu un fou rire de 20 minutes pendant le concert.
Ah oui.
Alors je dis 20 minutes avec mon sourire d'enfant, un peu souvent on se trompe dans les temporalités quand on se souvient des choses, mais c'était extrêmement long. Il y a des gens du public qui lui ont porté des mouchoirs tellement elle riait, elle avait les larmes qui coulaient, elle n'arrivait pas à reprendre ses morceaux, enfin c'était cataclysmique. Je me souviens même de gens dans le public qui faisaient « Oh !» comme ça, enfin, vraiment choqués, outrés de la situation. Et je me souviens très bien qu'après... Après Christelle Noguès, puisque c'était un coplateau, joué Balaké Sissoko et ses musiciens. Et donc, même ma mère avec Rubon, à la sortie de ce concert, de me faire un topo sur les drogues qu'il ne faut pas consommer, parce que ma mère est intimement persuadée que l'harpiste a consommé de la drogue. Je ne suis pas sûre, hein, mais le stress peut vous faire avoir des fous rires sans consommation de produits illicites. Et donc, grâce à Christelle Noguès, j'ai enfin découvert qu'il y avait de l'herbe qui faisait rire les gens, mais... Mais pour moi, c'est resté très longtemps l'harpiste farfelu qui avait ri pendant ce concert. Mais probablement, puisque je l'ai appris après, elle était très stressée au moment de monter sur scène. Et là, je pense que ça devait être, parce que je serais à sa place maintenant, je n'emmènerais pas large. Elle venait jouer devant le monde entier. Enfin, le monde entier, pas du tout, mais le monde de la harpe. C'est-à-dire, voilà, il y avait... tous les gens qui jouent de la harpe, qui fabriquent des harpes, qui diffusent des milieu. Enregistrements,
le milieu,
dans une même salle. Après, et là, il ouais, fallait jouer, c'est extrêmement
année,
impressionnant.
Je sais pas de quelle année tu parles précisément, mais moi, ça me fait penser, enfin, je veux dire, ça, c'est tout à fait symptomatique de l'époque où Christine a commencé à avoir sur scène des comportements erratiques.
Ah oui.
Et
ah oui.
Ça s'est produit plus d'une fois, c'était pas toujours des fous rires, parfois c'était autre chose, elle sortait de scène, elle revenait pas, ou elle arrivait en retard. Ou...
Ouais.
Et puis ensuite est venue la période où elle annulait purement et simplement certains concerts. Quoi.
D'accord.
On va dire que c'est en 94, à vue de nez. 94,
ouais, ça,
95,
c'était pas encore tout à fait le début de la fin, mais bon.
Ouais.
C'est un peu plus tard que c'est devenu vraiment problématique, parce que même la programmée devenait pour des organisateurs de concerts devenaient périlleux.
Ouais, ouais. Alors, dans le film, c'est exprimé aussi ça. J'aimerais bien ton avis, Raphaël. Toi, tu joues ce soir, par exemple, tu vas jouer de la harpe électrique, tu nous as dit. Mais je comprends, en voyant le film, qu'elle a été un peu une pionnière en la matière.
Ah bah alors, complètement. Alors, pourquoi c'est une pionnière en la matière? Toujours difficile d'expliquer, d'expliquer ça. La harpe, c'est un instrument un peu bizarre pour plein d'aspects. C'est un instrument qui est vite couvert par les autres. Acoustiquement, il est pas fort. Acoustiquement, donc pour plein de raisons, une fois que la corde est tirée, on n'a plus d'action sur le son qui sort, donc contrairement à d'autres instruments où quand on souffle, si on a envie de donner plus et de souffler plus fort, on peut le faire, la harpe c'est fini. Et c'est un instrument qui, de par sa construction, que ce soit les harpes celtiques ou les harpes classiques, pas affreusement génial pour moduler. Et ce qui fait que ça rend si compliqué l'intégration de la harpe dans des musiques contemporaines ou jazz, parce que ça rend techniquement les choses deviennent vite, très vite, beaucoup plus compliquées pour la harpiste ou le harpiste. Et elle a choisi vraiment de défoncer le répertoire de la harpe en passant par l'harmonie.
Ah oui.
On peut passer par le rythme. Par exemple, le rythme, c'est quelque chose qui m'interroge beaucoup parce que la harpe, ça peut aussi être un instrument rythmique. Elle, voilà, ce qu'elle a choisi, c'est de sortir de ces harmonies qu'on peut avoir un peu toutes prêtes quand on joue et qu'on a accordé les palettes. Alors, pour quelqu'un qui ne joue pas de harpe, la harpe, on va l'accorder dans une échelle, soit en réglant des petits boutons qui sont au-dessus de la colonne, enfin, sur la console de la harpe, soit en réglant des pédales. Et on peut improviser, jouer beaucoup dans l'univers dans lequel on a réglé l'instrument, mais il faut aussi savoir en sortir. Mmh. Et ça, c'est un défi. Donc, il faut connaître l'harmonie et puis il faut aussi connaître des harmonies nouvelles. Et c'est justement un peu ce qu'elle a... Enfin, pas un peu, c'est ce qu'elle a cherché à faire. C'est qu'elle a essayé des chemins avec la harpe harmonique différents. Et ce qu'elle a cherché aussi, c'est vraiment les intégrer à un jeu de harpe. Parce qu'on peut jouer des harmonies un peu bizarres, mais elle garde quand même un plein jeu de harpe où elle joue mélodie main droite, des accords. Et en ça, je trouve que c'est assez unique. Et assez rare pour évidemment être notable, étudié et écouté, apprécié. Et en plus, ses recherches harmoniques, je trouve qu'elles sont encore très d'actualité parce qu'elles peuvent. De collègues harpistes ont continué dans cette direction. Voilà.
Mmh. Ce qu'on peut ajouter, c'est qu'elle a été pionnière dans l'électrification de l'instrument.
Aussi,
c'est-à-dire
merci.
Que ça se, il y a une époque, ouais. Quand elle est arrivée, alors ça c'est vraiment le début des années 80, ça se faisait pas, hein, et elle a même suscité la création de prototypes. Enfin, elle travaillait avec un facteur de harpe qui s'appelait la Camac.
Ouais.
Je ne me souviens pas exactement du nom de son responsable.
Joël Garnier, c'était pas ça ?
Oui,
voilà,
c'est ça.
Joël Garnier. Et Joël Garnier travaillait directement avec Kristen pour élaborer de nouveaux modèles de harpe électrique, ouais. Et dont elle était parfois même la démonstratrice. Quoi.
Ah, d'accord.
Ouais, et d'ailleurs, c'est le modèle sur lequel elle joue, qui est sur les archives que Pauline, tu m'avais montré, qui sont peut-être dans le film. Suspense, suspense. En fait, c'est le prototype de harpe sur lequel je joue maintenant et qui est commercialisé et qu'on trouve.
Ah, d'accord. Ouais, ouais.
Et qu'on trouve pour le prix modique de.
Ouais. Alors, je propose qu'on écoute un dernier extrait du film où ils seront. Où tous ces aspects dont tu viens de nous parler seront évoqués. Puis on enchaînera avec Spin and Spell.
Yep.
Je pense qu'elle a trouvé dans le jazz la complexité harmonique et rythmique qu'elle cherchait. Mais elle n'avait pas... Enfin, il y a des musiciens pour qui le jazz, c'est d'abord le groove, c'est-à-dire le swing. Et elle n'était pas dans le groove, elle était dans la complexité mentale de l'accord, de l'harmonie. Et c'était plus européen et peut-être celtique, je ne sais pas si on peut dire celtique. Et je pense que le fait qu'elle est derrière son arrière-plan celtique l'a tiré vers autre chose, oui.
Moi, je me souviens du jazz parce que j'ai été directeur d'un festival de jazz avec Henri Texier. Et un jour... on a invité Christine à venir, elle a rencontré Jean-François Jenny Clark et elle a rencontré le jazz.
Un jour, moi j'ai vu un spectacle qu'elle a fait avec John Sherman. John Sherman qui a fait quand même beaucoup de musique répétitive et tout, mais qui s'inspirait aussi de choses, des hébrides et ainsi de suite. Et quand ils ont joué tous les deux, t'as pas vu ce concert là ?
Non, j'ai pas vu. Ah.
Elle a une attaque absolument incroyable, projette le son, c'est direct. Ensuite, ce qui est absolument évidemment génial, c'est son travail sur l'harmonie, puisqu'elle essaye d'emmener cet instrument qui est assez contraint, enfin même qui est très contraint, on s'en rend pas compte, mais qui est l'harpe celtique, vers des musiques qui modulent énormément. Cet aspect de recherche est absolument génial chez Christène.
Voilà, on vient d'écouter Spin and Spell. Peux-tu nous rappeler, Raphaël, de
oui, quoi il s'agit ? Oui, tout à fait.
Et quels sont tes partenaires dans ce...
Eh bien, il s'agit de Raphaël Kenen, qui joue du saxophone et des petites percussions, et de Simon Wincey, qui joue de la camélangonie et de la flûte Peul, et qui chante.
Tu nous en avais parlé le 7 mars. Mais alors, tu nous avais parlé d'un disque ?
Est-ce oui, que... eh ben, c'est ce que tu as dans ta boîte mail, ce sont les masters de ce disque qui sort le 8 septembre et tu es les premiers à les diffuser.
Ah, incroyable. Ouh. Un inédit sur Radio Libertaire.
Mais yeah, que d'inédit dans cette émission.
Ah bah merci beaucoup. Ah, c'est génial. Merci beaucoup. Alors bon bah on se retrouve tous ce soir au cinéma La Tournelle. Mais peut-être Théo, on a entendu un des Bretons là qui parle d'un concert de John Schurman. Et est-ce que c'est celui qui a servi à faire le disque? Je m'exprime mal, on est en fin d'émission, je ne sais pas si vous me comprenez, mais il parle d'un fabuleux concert qu'il a vu de Christian Nogas et John Schurman. Est-ce que tu sais si c'est ce...
On ne sait pas.
On ne sait pas, d'accord.
Non.
En tout cas, le disque qui sort, dirait où, c'est un live, c'est bien un live.
Ouais, c'est extrait de plusieurs...
Il y a plusieurs
concerts.
D'accord, ouais.
Il y a au moins 5... 4 ou 5 concerts différents.
Ouais, moi j'avais entendu parler d'un concert, évidemment, c'est pas le seul, hein, dans une chapelle, mais même là, les dates sont pas, pas déterminées avec précision. Bon, pendant la décennie 90, Christen et John Schurman se sont produits ensemble plusieurs fois.
Ah oui, d'accord.
Mais il n'y a pas eu, par exemple, une tournée où c'était en continu. Donc c'était
plutôt il y a eu un festival
où,
a priori, les enregistrements proviendraient de ce festival, sur 5 dates.
D'accord, okay. Voilà, c'est ça.
Ça reste quand même nébuleux. On ne sait pas qui enregistrer. Vraiment. Donc, moi, j'ai glané les informations que j'ai eues. J'ai quand même noté sur le disque les informations qu'on m'a données. Mais il y a toujours un risque d'imprécision parce que ça a été très, très difficile de savoir.
Est-ce que c'est bien le fils de John Schurman qui a, qui a fait le master?
Alors, et ça a été remasterisé.
Oui, je sais qu'il avait nettoyé les bandes à un moment.
Voilà, c'est ça. Lui, il a fait ce qu'on appelle de la restauration.
Ouais. Okay.
Voilà. D'accord, et après de la restauration, Gilles Lojol a refait un mastering.
D'accord.
Donc c'est passé entre deux mains.
Ok. Alors, il nous reste 5 minutes avant d'écouter un dernier extrait de Dire Yahou. Alors, je vais vous interroger sur vos concerts à venir pour Raphaël et sur les sorties de disques. oui. sur les sorties de disques à venir au Souffle Continu.
Oula.
Ou celle qui...
Bah, il y a déjà celui-là qui sort.
Ça
nous occupe pas mal.
Ça vous occupe pas mal.
Ouais. C'est le nouveau bébé, ça va nous prendre du temps de le bosser. Après, il y a d'autres projets, évidemment.
Il y avait le disque Après la marée noire, peut-être tu peux en dire
un mot. Après la marée noire, on réédite tous les disques de l'intercommunal de François Tusk.
Ah oui, c'est super.
Voilà, il y en a 6 au total, on en a déjà fait 4. Il y en a encore 2 à faire.
Ah bah voilà.
Ils sortiront avant la fin de l'année, normalement.
D'accord, mais je crois qu'on en parlera dans 15 jours, dans l'émission.
Avec joie.
Dans l'émission sur les sorties de disques. Pauline, François, avez-vous des projets de films ou d'autres créations?
Alors oui, des projets de films, j'en ai tout le temps. Soit en tant qu'autrice, soit maintenant en tant que productrice. Mais alors là, pour le coup, rien à voir avec la musique. Voilà, je travaille avec la Mauritanie, et notamment les femmes mauritaniennes qui sont investies dans la protection de l'environnement et de l'océan. Et là, je suis en train de préparer un documentaire sur 5 femmes qui sont venues à Nice la semaine dernière à la conférence sur l'océan, porter la voix de la Mauritanie.
D'accord. Voilà. Ah, super. Ah ouais. Ouais. François ?
Eh bien, grâce à Théo, tout à l'heure, on a évoqué la parution de mon dernier livre, qui est toute récente, donc Mémoire d'un discomane aux éditions Mediapop. Je le signale parce que c'est vraiment un excellent éditeur de Mulhouse. Et après, je me demande si celui-là n'est pas sorti trop vite avant le précédent, qui remonte à octobre 2024, donc c'est encore tout récent, qui s'appelle My Back Pages. et qui tourne autour de Bob Dylan.
Ah, okay.
Donc, sujet qui a été d'une grande actualité ces derniers mois.
Ah, oui, le film.
Grâce ou à cause du biopic ouais. que l'on sait.
Ouais.
Et puis, bah, je viens d'en commencer un autre dont je ne dirai rien.
Ah bon, d'accord. Pas un tuyau dans l'oreille des auditeurs, en douce dans l'oreille des auditeurs et auditrices de Radio Libertaire.
Bon, je vais en dire le moins possible, mais c'est encore un sujet musical. Quoi.
Ah, très bien. Bon, ouais. Ouais, voilà.
Et puis, il y a le livre sur Scott Walker que tu as écrit, qui est quand même...
Alors ça, c'était celui d'avant le Dylan.
Ah, d'accord.
2023, aux éditions Le Boulon, Scott Walker, chronique d'une obsession, voilà, ouais. sur ce personnage... disparu lui aussi, ouais. mais très très atypique dans le monde de la pop.
Ah oui, clairement.
Et voilà, qui est,
Il faut savoir que François ne dort pas.
Oui, voilà. c'est ça, j'étais en train de me demander voilà. comment fait-il.
Nous sommes plusieurs.
et alors, le film, il y a. Je ne sais pas s'il est passé beaucoup en salle. L'harpe de Christine, quelle vie a-t-il eu, quelle diffusion a-t-il connue?
Donc, l'avant-première a eu lieu il y a un an exactement au cinéma Les Studios à Brest. Très rapidement derrière, il y a eu la diffusion télé sur France 3. Et le film a été en replay jusqu'en juin, là, c'est fini. Il était en replay sur France Télévisions.
Ah, d'accord.
Donc, vous pouviez y avoir accès librement, mais maintenant, c'est fini. Et sinon, on a eu des sélections en festival, au festival de Douarnenez, au festival Musical Écran à Bordeaux, mmh. qui est un festival consacré aux films musicaux. Mmh. On a fait aussi le mois du film documentaire en novembre en Bretagne. On est venu montrer le film à la SCAM à Paris, et ce soir à la Tournelle, et cet été au festival Interceltique de Lorient.
Ah bah oui.
Voilà. Et donc, pour un film musical, il a une vie correcte, sachant que voilà, c'est un film qui a été fait avec la télévision, c'est pas un film qui a été fait pour le cinéma en particulier, mais on a quand même eu la chance de faire des projections en cinéma.
Super, ouais. On espérait le faire voyager peut-être un peu plus, dans notamment des pays de harpe, et là on se heurte au problème d'une version sous-titrée anglais qu'on n'a pas encore, qu'on aura peut-être,
oui, c'est pas le plus,
un jour.
C'est pas le plus compliqué. Raphaël, des concerts?
Ah ben, eh bien, il y en a.
Ah.
Alors bon, je n'écris pas aussi vite que François, hein, faut le savoir. Donc les projets sont moins variés, mais je joue toujours avec Nout. On joue cet été dans différents coins de la France, comme Toulouse, Nantes, Paris. Nous jouons aussi la semaine prochaine à Spielbergen. Vous voulez savoir où c'est, hein?
Bah oui.
Si vous voulez, je regarde sur une carte, je vous le dis après. Spin and Spell, ça tourne à la rentrée pour la sortie de disque. Et là, je suis en train de monter un répertoire solo et j'espère, je suis en train de travailler en tout cas à ce qu'il joue.
Eh bien, il jouera ce soir au cinéma La Tournelle. Alors, c'est simple, ligne 14, c'est à 15 minutes de Châtelet, peut-être un peu plus, mais non, je crois pas. 15 minutes de Châtelet, vous sortez de la gare de l'Aïlé-Rousse, c'est tout droit. Tout droit, 15 minutes à pied, c'est pas très long, on l'a fait tout à l'heure. Hein,
non, c'est pas très long, effectivement.
C'est pas très long du tout, c'est agréable même.
C'est très agréable, c'est très vert, on se croirait à la campagne.
C'est la campagne. Et puis alors sinon, si vous sortez de la gare, il y a sur la gauche la rue perpendiculaire, on dit, à la gare, il y a l'arrêt du bus 286 qui vous mène très rapidement au centre de l'Aïlé-Rousse, et c'est deux arrêts, donc si vous ne souhaitez pas marcher. Donc ce soir, au cinéma La Tournelle, concert solo de Raphaël Rinaudot, puis le film de Pauline et François, L'Harpe de Christine, en présence également de Théo. Tu viens avec nous, Théo?
Oui, bien sûr. Il y aura des disques à vendre, ben voilà. CD et vinyle.
C'est surtout la fête pour la sortie de l'album.
Et on a fait des affiches exprès, très belles affiches.
Super.
On offrira avec joie aux spectateurs.
Et ben merci en tout cas, Théo. C'est grâce à toi qu'on a réuni toutes ces énergies là et qu'on va poursuivre ce soir au cinéma La Tournelle de L'Aïlé-Rousse.
Merci à vous.
Dans 5 minutes, l'émission La Rage de Dents sera consacrée à désarmer Bolloré. Dans le contexte de la campagne Désarmons Bolloré, et en emboîtant le pas au boycott appelé par les librairies antifascistes, La Rage de Dents reçoit Clara et Arnaud, deux membres du collectif Débordé Bolloré, pour présenter leur recueil. Des éditeurs indépendants coéditent collectivement ce recueil pour prendre part depuis leur secteur à la réflexion générale sur le démantèlement de l'Empire Bolloré. La semaine prochaine, c'est la semaine prochaine les sorties discographiques, c'est pas en 15 jours, c'est la semaine prochaine. 16h La Rage Dedans, 17h30 les amis de Radio Espéranto, on se quitte avec Christian Nogues et John Schurman, extrait de Dir Yahou, le morceau Clayer. Allez, merci à vous, et puis à la semaine prochaine. Tac, tac, tac. Thank you.